Et c'est parti avec l'appel de Boris. Bonsoir à vous, Boris.
Oui, bonsoir, Sabine.
Ravi de faire votre connaissance.
Oui, enchanté.
Alors, dites-moi ce qui vous amène.
Alors, il faut savoir que je suis déjà passé sur l'antenne il y a à peu près un an pour raconter une histoire un peu folle avec une personne qui, à l'époque, pour moi, j'avais pas de diagnostic, en fait. J'avais juste des faits, j'avais juste des actes, mais j'avais pas le mot, en fait, précis pour déterminer, en fait, la catégorie de cette personne.
Un peu folle, ça veut tout dire et rien dire, quoi.
Ben, en fait, justement, à l'époque, c'était le diagnostic que j'avais, parce que j'avais pas de mots dessus. Mm-hmm. Et en fait, il s'est avéré qu'avec mes investigations, plus mes séances chez un psychothérapeute, etc., eh ben, on a fini par mettre un nom sur ces personnes, enfin cette personne, qui peut être un homme ou une femme, hein, à savoir une perverse narcissique. Mmh. Et donc, en fait, ce soir, je suis là un petit peu pour faire le bilan et un petit peu pour prévenir aussi un peu les auditeurs ou les gens qui pourraient tomber ou qui seraient en ce moment dans ce genre de relation. Parce qu'ils fonctionnent tous de la même manière.
Ça, c'est vrai. Alors, comment ça a commencé? Comment êtes-vous tombé dans son piège au départ?
Alors, oui, exactement, c'est bien le cas, c'est le piège. Alors, en fait, c'était une personne que j'ai rencontrée, en fait, par un site de rencontre. Et déjà, il y avait quelque chose qui n'était pas très logique. C'était une Américaine qui était en stage à l'ONU à Genève, qui allait partir une semaine après pour travailler à Washington, D.C., pour 4 mois, et partir faire un an dans une université en Finlande.
Oui, c'est curieux de chercher une rencontre à ce moment-là, effectivement.
Effectivement, mais bon, moi... à cette période-là, j'ai dit, bon, alors rencontrer, j'attendais rien. J'étais pas forcément dans la recherche d'une rencontre pour faire quelque chose de sérieux, enfin, de dire,
durable,
ça pouvait être amical, etc. Non, même pas. Hein, j'étais même pas parti pour quelque chose de sexuel ou quoi que ce soit. C'était plus rencontrer des gens. Donc, c'est la première personne que je rencontrais depuis 4-5 mois que j'étais célibataire. Et en fait, le premier jour, c'est ça qui maintenant me revient en flash, on s'est rencontrés. J'ai raconté ma vie. Elle m'a très, très peu parlé de sa vie. Donc, j'ai étalé un petit peu mon jeu. Elle m'a fait des cadeaux pour un premier date, j'allais dire, un peu bizarre, genre un livre avec carrément mon nom imprimé dessus.
Oui, c'est un investissement financier, mais affectif surtout. C'est curieux, ça, oui.
Ben, en fait, il y avait plein de cadeaux que je m'attendais pas à recevoir, hein, pour un rendez-vous où on va boire un café, manger quelque chose au restaurant, et voilà. Là, non. Et en fait, on a passé une journée à Genève. Sorti de là, j'ai pris le train. Je l'ai regardé une dernière fois. Je me suis dit, de toute façon, elle ne me rappellera jamais. Vu dans l'état où j'étais et ce que j'ai raconté de ma vie, elle va se dire, lui, c'est bon, c'est pas la peine. Il n'est pas dans le bon timing avec moi. Mais non. Finalement, c'est ce qui lui a plu chez moi, à savoir qu'une perverse narcissique, en fait, elle recherche quelqu'un qui a de l'empathie, qui est ouvert d'esprit, qui sait se remettre en question et qui a une petite faille. Et cette petite faille, c'est incrustée à l'intérieur, c'est-à-dire la dépendance affective.
Un manque de confiance, probablement.
Oui, alors on en a tous, hein, plus ou moins, mais elle a mis le doigt dessus. Et donc, on a gardé contact. Pendant presque un an par téléphone, c'était un contact permanent. C'était tout le temps, tous les jours, ça n'arrêtait pas.
Mais vous vous disiez quoi ? C'était une histoire d'amour ou c'était une histoire d'amitié à ce moment-là ?
En fait, c'était une histoire d'amitié, mais en fait, je pense que petit à petit, elle, ça lui a permis de voir qui j'étais.
Sa toile autour de vous, quoi.
Voilà, une fois qu'elle a mis l'hameçon dessus, alors même si moi je l'ai repoussé 2-3 fois en lui disant « Écoute, c'est pas logique, t'es aux États-Unis, tu vas partir en Finlande, c'est pas concevable. » Ben elle, au contraire, non, ça lui mettait du bois dans sa cheminée, à savoir que ça l'alimentait encore plus pour me tenir, par tous les moyens. Ça a duré comme ça pendant un an, en sachant que pendant un an, on s'est raconté toute notre vie, toutes nos histoires. On n'a jamais parlé d'avoir un enfant ensemble parce qu'il y a déjà une fille de mon côté que j'ai éduquée toute seule et elle aussi, en sachant que sa fille a eu aussi un petit-fils à 16 ans qu'elle a dû aussi se prendre la charge. Donc, on va dire pendant 20... jusqu'à 44 ans, de 16 ans à 44 ans, elle a pris soin de sa fille et de son petit-fils. D'accord ? Donc là, elle faisait un an d'études en Finlande qu'elle allait débouler sur un master degré. Et ensuite, elle devait travailler, retourner en Suisse. Donc, le programme, en fait, c'était de se retrouver, nous, en Suisse. Mais bon, il y avait du temps. Entre-temps, il pouvait se passer pas mal de choses.
Mais il y a une ambiguïté, parce que vous me parlez d'une histoire d'amitié, en même temps, vous me dites on n'a pas envisagé de faire des enfants. Donc forcément, enfin, dans une histoire d'amitié, on ne parle pas de faire d'enfants.
Ben non, mais on parle de nos vies, donc on parle de nos points de vue. On pouvait parler de politique, d'histoire, enfin plein de choses.
Ah oui, on parle pas de faire d'enfants ensemble.
Non, mais on avait donné nos points de vue par rapport à nos vies. On se disait, voilà, moi j'ai eu ma fille toute seule, toi tu as eu ta fille toute seule, plus ta fille a eu un petit-fils. Donc je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, à 44 ans et quelques, on a autre chose à faire. On a envie de profiter de la vie, quoi, de se lancer dans d'autres aventures. En plus, elle habitait aux États-Unis et son rêve, c'était de vivre en Suisse.
Mais qu'est-ce que ça vous apportait, vous, cette espèce de contact à distance ?
Bah, c'est la première fois que je tombais sur une personne avec qui la symbiose, la connexion était parfaite. Mais ça, je l'ai su après que c'était du fake, en fait. C'était du faux, en fait. Mmh. Elle allait dans mon sens parce que son but, c'était de...
Vous appâter.
De m'appâter. On appelle ça du love bombing, hein, dans les termes... Dans le côté pervers narcissique, c'est-à-dire qu'on nous en jette plein les yeux, on n'a pas le temps de réfléchir, on est embarqué dans une histoire, on est mis sur un piédestal. Et puis après, petit à petit, elle a commencé à faire des insinuations, à être un petit peu plus directe avec moi. Elle a commencé à placer un petit peu des touches un petit peu sexe dans nos conversations sans être vraiment directe. Mmh. Et puis en plus, à la suite de son master degré, finalement, elle a trouvé du travail en Allemagne. Donc moi, je me suis dit, bon, Berlin, moi j'étais à Lyon. Je me suis dit, bon, maintenant, ça peut être un peu plus cohérent. On va se rencontrer physiquement, on va se voir un peu plus souvent.
Elle vous plaisait physiquement ?
Oui, bien sûr. Mm. Oui. Non, il y avait tout, tout sur nos choix musicaux, la musique, l'histoire, les conversations, le sport, la nourriture, tout.
Donc
vous pensiez que ça
allait coller, quoi ?
Bah, ça collait très bien, en tout cas. Ça collait très bien jusqu'au jour où finalement, une fois qu'elle a posé ses jalons, une fois qu'elle a vu à quoi ça ressemblait, une fois qu'on s'est rencontrés et que ben, finalement on a couché ensemble et qu'on a recouché ensemble et qu'on s'est revus et re-revus, on va dire entre août 2020 et décembre 2020, tout allait bien, c'était un vrai petit paradis, on se voyait, j'allais à Berlin, elle venait en France et jusqu'au jour elle m'annonçait qu'elle était enceinte. Qu'elle était chez elle, par terre, dans le noir, en train de se demander si elle allait prendre la pilule du lendemain ou pas. Sans avoir fait de test, d'ailleurs.
Enceinte de vous ?
Oui.
Mais comme elle a l'air assez particulière.
Oui, non. Mais sans avoir fait de test au préalable, elle m'annonçait ça comme ça. Et je pense qu'en fait, c'était un test, vraiment. C'était pas un test de grossesse, oui. C'était un test pour voir ma réaction. Et donc, ma réaction était que on n'est pas mariés, on ne vit pas ensemble. Tu es en Allemagne, je suis en France, donc non. Non, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. En plus, tu m'apprends avec tes principes religieux que, soi-disant, tu n'es pas obligé de faire l'amour avant le mariage et que l'enfant, c'est après être marié et pas avant. Donc là, ça ne va pas. Donc du coup, il s'est passé une demi-heure avant qu'elle me rappelle et qu'elle me dise finalement qu'elle l'avait prise. Mmh. D'accord. Et ensuite, la semaine qui a suivi, ça a commencé par des reproches. En disant, mais tu crois pas qu'on aurait dû le garder, ça aurait été beau d'avoir un enfant, etc. etc. Alors, vu que moi, la vague était passée et que j'étais, j'allais dans son sens. J'ai dit, oui, c'est vrai que c'était beau d'avoir un enfant, j'en ai déjà eu, c'est beau, mais voilà, c'était pas le bon moment. Ça, elle l'a bien gardé dans sa tête. Jusque quelques mois après, donc pendant la période du Covid, elle est venue en France, puisqu'elle faisait du télétravail, et elle est restée un mois en France, et à la fin du mois, un jour avant de partir, elle m'a annoncé avec un grand sourire qu'elle était enceinte. Deuxième fois.
C'est hallucinant comme façon de fonctionner, ça.
Ben oui, surtout qu'on n'en a pas discuté, et qu'elle prenait la pilule, qu'on est adulte, je sais pas, elle fait des conférences à l'ONU, elle parle devant des milliers de personnes, je pense qu'elle est adepte, qu'elle peut parler... de choses concrètes avec moi, mais non. Donc on peut être éduqué et avoir d'autre côté où c'est pas très clair. Moi, ce soir-là, quand elle m'annonçait ça, je lui dis, mais non.
Toujours ou alors, pas, non.
Non, puisqu'on n'a toujours pas... Et puis là, c'est là qu'elle m'a traité d'assassin, de criminel, qu'elle m'a dit qu'elle était en relation directe avec Dieu, que moi, j'avais rien à dire.
Oula.
Donc là, je suis tombé des nues. Et donc, elle m'a dit, de toute façon, je le garde et au pire, je le ferai adopter. Je lui dis, mais tu te rends compte de le faire adopter ton enfant? Enfin, je sais pas, ça. Enfin, bon, bref. Je lui dis, écoute, tu fais comme tu veux, mais en tout cas, moi, je suis pas pour. Et de là, 5 minutes après, elle est partie en fou rire. En fou rire. Je sais pas si c'était un jeu. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle est partie en fou rire. Et en fait, non, c'était nerveux. Je sais pas. J'ai rien compris. Et ensuite, on s'est couché dans le lit. Moi, j'étais pétrifié. J'étais le regard dans le vide en train de me dire comment je vais gérer ça. Et là, elle me dit froidement, bah, écoute, tu sais, vu que je suis déjà pleine, tu peux y aller maintenant.
Oh là là.
D'accord. Donc là, ce jour-là, j'aurais dû prendre les jambes à mon cou et partir. Sauf que je ne suis pas parti parce que justement, le don de la perverse narcissique, c'est de vous mettre dans une emprise. J'étais dans une emprise. J'étais amoureux, certes, mais j'étais dans une emprise qui. Alors, j'avais quand même de la raison qui me donnait enfin qui m'avait dit non, je ne veux pas avoir cet enfant avec toi et je garde mes positions. Mais après, le fait de lui mettre, j'allais dire vulgairement, un coup de pied, non, j'avais pas la force. J'étais voilà. Et de là, et ben le lendemain, on est parti à l'hôpital faire l'avortement. Elle a beau y passer devant plusieurs psychologues, etc. Aucune pleure, rien du tout. Tout s'est passé comme une lettre à la poste, j'allais dire. J'étais même étonné parce que la veille, me traitait d'assassin criminel et que c'était une vie et qu'on pouvait pas tuer un enfant. J'ai pas trop compris non plus. C'était assez froid. Et ensuite, elle est retournée en Allemagne et puis après, bah, c'était le début des reproches et des crises et des crises de jalousie sur des contacts Facebook, sur mes amis, critiquer ma fille, critiquer ma sœur. Enfin, c'était sans arrêt.
Mais qu'est-ce qu'il y a de pervers narcissique là? Donc, je vois pas tellement ce schéma pervers.
Ben, le côté pervers narcissique, c'est qu'ensuite, ça a été, comment dire, c'est tellement bien mis en place, c'est-à-dire qu'au départ, tout est beau, tout est rose, et puis après, petit à petit, son vrai côté malsain ressort. Et c'est malsain, c'est des manipulations, c'est des insultes, c'est des mensonges, c'est des rabaissements, c'est chronique. C'était le chaud pour le froid, c'était le silence radio, c'est je reviens, je repars, je te jette, je te reprends. Et moi, j'essayais de suivre, j'essayais de comprendre quelqu'un qui était incompréhensible. Et je suis devenu complètement taré, en fait.
Vous connaissiez son histoire de vie, elle? Comment elle a été élevée?
Alors, oui, justement. Alors, j'ai su, et puis en fait, elle en a très peu parlé, mais bon, il y a eu des abus sexuels, il y a eu de la violence de la part de son père. Donc, je pense qu'elle avait mis un mouchoir sur tout ça, d'où cette rancœur et cette haine qu'elle a mal digérée et qu'elle vomissait sur les autres, en fait.
Parce que souvent, les manipulateurs sont des gens en grande souffrance, ce qui n'excuse absolument pas leur comportement, mais ce qui explique
bien sûr.
Qu'ils sont tellement malheureux avec eux-mêmes qu'ils n'ont de cesse que de se venger sur les autres.
Bien sûr. Et en fait, moi, j'étais la bonne poire, j'allais dire. Hein. Et donc, j'étais son souffre-douleur. Donc, dans un sens, elle m'aidait, elle me soutenait. Et dans un autre sens, elle me cassait, elle m'utilisait. Tout ce qu'elle n'était pas capable de respecter, eh ben, elle me l'imposait. Enfin, c'était des choses complètement débiles. Enfin, je veux dire, par exemple, celui-là, c'était le mieux. C'était que, en fait, comme je disais qu'elle avait un problème avec le sexe, parce qu'elle disait qu'il ne fallait pas faire l'amour avant le mariage. Mais malgré tout, c'était elle qui me sautait dessus les 400 fois où on s'est vus. Et c'est uniquement quand je reprenais l'avion, quand je rentrais en France, que de temps en temps, elle m'a envoyé un message en disant « Oui, c'est pas bien ce qu'on a fait, il faut qu'on respecte Dieu. » Ben oui, mais enfin, ben, entre-temps, tout le week-end, tu n'y as pas trop pensé à tout ça. Hein. Tu n'as pas eu trop de larmes à l'œil. Donc, elle m'imposait des choses qu'elle n'était pas capable de faire elle-même. Elle était en contradiction avec ses hormones, avec sa religion, avec son éducation, avec son caractère. Donc, c'était une vraie tornade. Et en fait, un jour, elle m'a proposé même de partir en vacances avec elle pour tester notre sexualité. Alors, je vous l'explique en mille. C'était qu'elle avait loué des hôtels dans les différents endroits où on devait aller en Espagne avec des lits séparés. Et elle jugeait que c'était les lits séparés qui allaient mettre donc une barrière.
Bon, c'est plus la perversion, ça. C'est presque une pathologie psychiatrique là, dont vous me parlez.
Oui, exactement. On est d'accord.
Vous avez tenu combien de temps? Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça s'arrête?
Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu trois ruptures, et dans les trois ruptures, je lui ai fait des mails incendiaires mais dans le bon sens, c'est-à-dire où je lui ai décrit en fait tous ses comportements, toutes ses incohérences, etc., etc. Et malgré ça, malgré qu'elle me jette, elle revenait derrière pour revenir sur tout ce que j'avais dit pour tout contrecarrer.
Oui, ça sert à rien avec des gens comme ça.
C'est... Alors donc, c'était en fait... Et donc, ça a dû comme ça une fois, deux fois, trois fois. Et au mois d'avril, elle s'est séparée de moi. Elle est partie en vacances. Elle m'a dit, oui, je pars là-bas pour t'oublier. Alors bon, elle s'est inscrite sur Tinder une semaine après. Elle gardait nos photos de nous sur Facebook pendant ce temps. Elle gardait contact avec moi en même temps. Donc en fait, c'était du n'importe quoi. Moi, j'avais remarqué tout ça. Donc un jour, j'ai pris l'avion. Je suis allé en Allemagne pour la voir face à face en lui disant, écoute, je peux même plus être ami avec toi. Et enlève toutes ces photos de Facebook et on arrête là. Et là, elle m'a sauté dessus. Elle m'a sauté dessus. C'est reparti pour un tour. C'est envoie encore à l'intérieur. Mais c'est pas bien de faire l'amour avant le mariage. Mais tu devrais faire ta vie en France.
Bah, elle vous saute dessus, Boris. Mais ce que je remarque, c'est que vous continuez quand même, quoi.
Bien sûr, parce que pourquoi ? Parce que j'étais toujours sous son emprise. J'étais comme un toxicomane. Et en fait, ce jour-là, elle a reproduit exactement le même scénario qu'elle avait reproduit donc au mois d'avril pour le Covid. Même chose. Et là, j'ai dit, bon, là, c'est pas la peine. Elle a conclu, elle a rien compris, elle remet le même couvert. Donc là, je suis parti. Et c'était très dur, en fait, parce qu'elle continuait toujours à m'appeler, elle continuait toujours à avoir une emprise sur moi. Et au mois de juin, j'ai coupé mon téléphone, j'ai changé de numéro, etc. J'ai coupé.
Bon.
Voilà, bah alors grâce, quelque part à ma sœur, parce que j'étais comme sur un pont, vous savez, pour sauter à l'élastique, et puis on est là, j'y vais pas, et puis ma sœur, c'était
elle
la personne
elle
qui
vous a poussé un gros coup de pouce. C'est ça, elle vous a poussé un gros coup
dans
le dos.
Un gros coup de pied, non, c'était les petits coups de pouce, parce que j'étais à 99% prêt pour partir, mais j'avais encore de l'emprise, donc j'ai fait le grand saut.
Ce qui est intéressant, c'est pas tellement elle et son comportement, c'est maintenant que vous avez travaillé sur vous, est-ce que vous avez compris pourquoi vous êtes allé vous mettre dans une histoire pareille ?
Alors, attendez, parce que ça s'est pas terminé en fait, c'est-à-dire qu'au mois de septembre, elle est revenue à la charge. Elle est revenue à la charge avec des emails vocaux, où elle me disait oui, mais ça serait bien, même malgré tout ce qui s'est passé, ça serait bien qu'on reste amis, etc., etc. Moi, j'ai pas répondu pendant un mois et j'ai craqué au mois de décembre. Et j'ai écouté ses messages et j'ai craqué et je suis retourné la voir et en fait c'était comme être face à un canard en fait, c'est-à-dire que tout ce que je lui ai dit ça glissait sur ses plumes, elle reconnaissait rien et en fait elle a pas changé, elle est folle.
Mais vous savez très bien que quelqu'un comme ça ne change pas.
Bien sûr, mais là, alors en fait si vous voulez,
c'est du top de penser qu'on va changer ces gens-là.
Non, en fait, oui, mais ça, je savais, mais si vous voulez, c'était plus pour moi. Tout le monde me disait, mais Boris, ça sert à rien ce que tu fais, tu perds ton temps, tu as déjà les conclusions. Je pense être assez intègre pour comprendre tout ça, mais je sais pas, il y avait quelque chose au fond de moi qui me disait, il faut que tu fasses un acte le dernier, même si ça n'a pas de sens pour tout le monde, mais peut-être que ça en a un pour toi. Et je suis allé jusqu'au bout, au bout du bout. Et en allant là-bas, en fait, sur le chemin du retour, je me suis vraiment regardé et vu. Mais je me suis dit, mais je me suis trouvé con, quoi. Je me suis dit, bon, écoute, là, Boris, pense que là, t'es... voilà.
Oui, sauf que décembre, c'était il y a 15 jours, quoi.
Ouais.
Oui, donc...
oui.
N'est pas très solide. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que vous me dites être en suivi en thérapie.
Oui.
Donc, qu'est-ce que vous avez réussi à comprendre et à apprendre de cette expérience ?
J'ai réussi à comprendre qu'en fait, le violon, les cordes sur lesquelles elle avait joué, en fait, c'était des cordes qui étaient sensibles chez moi, c'est-à-dire l'empathie, c'est-à-dire la sensibilité, l'affectif, le sexe aussi, donc elle a su jouer avec ça, et c'est grâce à ça qu'elle me tenait, en fait. Elle le sait d'ailleurs, elle le sait très bien, hein. Bon après, c'est...
Je préférais que vous réfléchissiez sur vous et pas sur elle, vous voyez ? Ce qu'elle a fait et comment elle l'a fait, on l'a bien compris. Mais ce qui est intéressant, c'est que tant que vous n'aurez pas compris pourquoi vous avez succombé à ça, vous êtes prêt à recommencer avec elle ou avec une autre.
Parce qu'en fait, si vous voulez, maintenant j'ai compris en fait le jeu qu'elle a joué en fait. En fait, c'est-à-dire que j'ai pas peur de rentrer dans une autre relation, mais je rentrerai pas dans une relation comme ça où tout est parfait, où il n'y a pas de problème, où la personne ne parle jamais d'elle, elle a aucun défaut, que des qualités.
Non, mais je reformule. Que vous ayez compris comment elle fonctionne, ça c'est très bien, j'ai bien entendu. Ce que je préférais, c'est que vous compreniez profondément comment vous fonctionnez. Et là, ça m'a l'air encore un peu instable.
Pas forcément. Alors j'ai peut-être du mal à l'exprimer maintenant, mais je pense en fait, non. Moi, la chose que j'apprécie dans un couple, bah, c'est de vivre des choses ensemble, d'avancer ensemble, etc. etc. Je pensais l'avoir trouvé en elle, mais finalement, ça ne s'est pas fait.
Vous m'avez parlé tout à l'heure de blessures d'abandon.
Oui, mais enfin, moi, je suis quelqu'un qui est très solitaire de base. Hein. Il n'y a pas de problème avec la solitude ni rien. Mais je ne sais pas pourquoi. Alors, je pense que ça remonte peut-être aussi à... Alors, c'est des choses aussi par rapport à mon enfance. Je pense qu'elle a réveillé des vieilles douleurs, enfin, des vieux manques affectifs par rapport à mon enfance. Et ça a rouvert des brèches et moi, je suis tombé dedans, en fait.
Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui vous a déjà traité comme elle vous a traité?
Oui. Ouais, ça arrivait. Ouais, mais c'était pas de la même manière. C'était pas aussi pervers, j'allais dire. J'ai eu une personne qui m'a trompé. J'ai accepté d'être trompé. Alors ça, c'est encore pire. C'est quelque chose que je tolérerais plus du tout aujourd'hui. Mais par amour, en fait. Et en fait, oui, l'amour en con, l'amour en aveugle. Dans mon cas, je pense que c'était aveugle, en fait. Je pense que j'avais. Je sais pas. En fait, si vous voulez, c'est comme si j'avais perdu mes repères, ma logique. Parce que je suis quelqu'un de très terre-à-terre, je suis quelqu'un de très logique, mais en fait, elle m'a complètement déstabilisé.
Oui, il y a une énorme scission chez vous entre l'intellectuel et l'émotionnel.
Oui.
C'est-à-dire qu'intellectuellement, a priori, vous êtes quelqu'un de sensé, vous avez parfaitement compris les choses, mais émotionnellement, l'autre partie, elle s'en fiche complètement de ce que l'intellect lui dit.
après, l'émotionnel aussi, des fois, je peux pas être dans je peux pas être quelqu'un sans émotion. Enfin, je veux dire, on vit par les émotions. Bah après, c'est vrai que des fois, ça m'emporte. Ça emporte même ma raison, en fait.
Et oui.
Ça, c'est vrai. Mais parce que elle appuie sur les bonnes touches. Je sais pas comment dire.
Quel sage-faire, ça, c'est. J'entends bien, mais. Peu importe, ce qui compte, c'est que vous compreniez pourquoi, en appuyant sur ces touches-là, chez vous, ça marche. Pour que le prochain qui appuie sur ces touches-là, ça ne marche plus, justement. Vous voyez ?
Ouais.
C'est ça qui est important.
Ben après, le problème, c'est se dire, mais la prochaine, ça va être quoi ? Parce que, je veux dire, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien ficelé, c'est tellement bien fait, c'est tellement réel que on tombe dedans, quoi.
Alors attention, on tombe dedans quand on a inconsciemment envie de tomber dedans.
Ouais.
Et c'est là où j'aimerais savoir si le travail que vous avez fait vous a amené à comprendre aussi que vous pouvez dire non, que vous avez le droit de pas vous laisser traiter comme ça.
Exact.
Tellement peur de dire non et tellement peur qu'on vous rejette que vous acceptez des choses qui sont inacceptables.
Oui, alors en sachant que ça, au départ, pendant l'année, on a été amis et même pendant les 6 premiers mois avant qu'elle m'annonce la première fois qu'elle était enceinte, j'avais du caractère, je savais lui dire non. Mais... Ben après, je sais pas, c'était...
Je sais pas si ça se mesure en caractère. Pour moi, c'est plutôt en blessure que ça se concrétise, si vous voulez.
Ouais.
Parce que on dit pas non parce qu'on a du caractère, on dit non quand on n'a pas peur de dire non, parce qu'on peut comprendre qu'on a le droit de dire non, déjà.
Bien sûr, dans la
vie quotidienne, on peut aussi avoir le droit de... On peut me dire non et m'aimer quand même, dans d'autres circonstances. La peur de dire non, ce n'est pas un problème de manque de caractère. C'est un problème de peur, de peur d'être rejeté.
Alors, en fait, le truc, c'est qu'elle jouait... Enfin, il y avait aussi le truc de jouer sur, des pressions et du chantage. C'est-à-dire que si je disais non, ou il y avait un mot qui ne lui plaisait pas, c'était genre, c'est fini entre nous, quoi. Ça ira pas plus loin, ou elle va me le faire payer, quoi.
Oui, ça c'est typique des manipulateurs, évidemment. Oui.
Oui, donc moi j'essayais d'arrondir les angles, il y avait des choses que je laissais passer, et puis il y a eu des fois où il y a des choses que j'ai pas laissé passer, mais j'ai pas laissé passer les choses, enfin je veux dire, il y a des fois elle m'a traité vraiment comme une merde, donc au bout d'un moment, moi je me suis révolté aussi, hein. Ça n'a pas été jusqu'au coup ni rien, hein, parce que je suis assez intelligent pour savoir que ce n'est pas avec les coups qu'on va résoudre les problèmes. Mais il y a eu des fois où je l'ai prise par les épaules et je l'ai mis contre le mur et je lui ai dit maintenant tu vas arrêter parce que je ne suis pas ton pote, je ne suis pas n'importe qui, je ne suis pas une merde, tu me parles comme il faut, tu me respectes.
J'entends bien, mais ce que j'aimerais, c'est que vous arriviez à vous prendre vous par les épaules en disant ça suffit maintenant. Et oui.
Ben oui. Ben.
Parce que vous me dites, vous me parlez d'une énième rupture qui date d'il y a quoi, 2-3 semaines, et maintenant il se passe quoi? Pour l'instant, elle ne bouge pas, j'imagine? Et puis, vous savez très bien qu'elle va revenir à la charge à la première occasion.
Non, je ne pense pas.
Oh, oh, oh.
Non, je ne pense pas. Alors, oui, je sais. Je connais le petit chant qui dit que les pervers narcissiques reviennent toujours. Ça, c'est clair. Mais non, je pense pas, non. Je pense pas. Et puis, même s'il revenait, moi, si vous voulez, le dernier acte que j'ai fait, ça m'a vraiment ouvert les yeux dans le sens où, voilà, quoi, c'est bon, allez, maintenant, tu passes à autre chose et tu t'occupes de toi et tu avances. Mais en fait, ce soir, j'appelle, c'est pas forcément pour mettre un point final à l'histoire, pour me réconforter moi-même, c'est surtout pour aussi prévenir les gens, quoi, qui tombent dans ce genre d'histoire, quoi, où c'est vachement difficile de s'en sortir. Hein. J'ai mis plus d'un an, hein, à vraiment m'en sortir.
Alors, si vous souhaitez échanger avec des gens qui sont dans cette situation, il existe une page Facebook qui est très très bien fichue, qui s'appelle « Pervers narcissique, comment les démasquer ?»
Oui, et d'accord.
Sur Facebook, il y a plein de témoignages et de liens. Il y a notamment des liens vers des associations. Il y en a une qui s'appelle victimesdemanipulateurs.fr, qui est très très intéressante. Mais vraiment, sur cette page Facebook « Pervers narcissique, comment les démasquer ?», il y a beaucoup de gens qui s'expriment, qui racontent leurs expériences et qui échangent. Et c'est très enrichissant.
Ouais.
Parce qu'effectivement, quand on a vécu ça, on en parle bien, on en parle mieux. Et on peut, comme vous le faites ce soir, alerter les autres. Mais le problème, c'est qu'alerter, malheureusement, ça ne sert pas souvent à grand-chose.
Oui.
Il y a un vrai travail
parce que quand on est dedans,
mais oui.
Non, franchement, quand on est dedans, c'est voilà. Et c'est vrai que c'est vraiment un travail sur soi, mais il faut vraiment prendre son courage. Mais c'est même pas à demain, quoi. C'est il faut avoir du courage, mais de ouf, quoi.
Bah, il faut se dire que si c'est arrivé dans notre vie, sur ce chemin, c'est qu'on a une expérience à en tirer. Il faut quelque chose à en apprendre.
Bien sûr.
Et que si on se laisse manipuler, c'est qu'on est allé chercher quelque chose. Vous l'avez dit vous-même.
Il y avait une faille.
Elle est venue combler la faille.
Bien sûr. Donc c'est pour ça que je peux pas dire que c'est forcément une mauvaise ou une bonne expérience. C'est quelque chose, oui, c'est j'avais besoin de passer par là. Alors, j'aurais préféré franchement passer par une page YouTube et apprendre qu'est-ce qu'une perverse narcissique plutôt que de l'apprendre par moi-même. Mais c'est vrai que c'est waouh, je pensais pas qu'il y avait des gens comme ça qui existaient, qui se nourrissaient de l'empathie, de l'amour, de l'énergie, de...
Oh ben, vous savez, on a beaucoup de témoignages dans ce sens sur l'antenne, et notamment, par exemple, le coup classique, c'est vrai que ce sont plus souvent les hommes qui ont ce comportement. En tout cas, ce sont plus souvent les femmes qui viennent en parler. Et ouais. C'est typiquement, par exemple, un homme qui est absolument charmant pendant une soirée à la maison avec les amis, les voisins et tout ça. Un amour, vraiment. Et au moment où la porte se ferme, il change complètement.
Mais... Non, puis alors, en plus, pour vous dire... C'est là que j'ai remarqué son côté pervers. C'est-à-dire que, alors, faut savoir que pervers narcissique, moi, j'ai appris quand même que leur métier phare, c'était, un, de travailler dans une grosse structure où ils avaient une place assez importante pour pouvoir justement avoir leur côté narcissique amplifié et en abuser, ou des associations genre humanitaires où là, en fait, ils se nourrissent de la misère et de la peine des gens. Elle a travaillé à l'ONU pour tout ce qui est maltraitance pour les enfants. Et aujourd'hui, elle travaille, je ne vais pas dire le nom, mais non, dans une très, très grosse société.
Je ne ferai pas de généralité, très grosse ça. Société. Il y a des pervers narcissiques dans tous les milieux et dans tous les métiers, ça. Franchement, je ne pense pas qu'il y ait une spécificité.
Bien sûr, mais comme par hasard, elle a les deux cas. Et
elle a besoin de dominer, oui, c'est clair.
Bien sûr. Et en plus, elle a de la... Je veux dire, même par rapport à sa fille, même par rapport à son gendre, il y a des propos, des haineux que j'ai entendus d'elle, mais s'ils les entendaient, mais c'est horrible, quoi. Je veux dire, elle a de la haine pour tout le monde, de la jalousie pour tout le monde, de la rancœur pour tout le monde. Elle laisse rien traîner. En fait, elle vit dans le combat, quoi. Pour elle, c'est la guerre.
C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est probablement quelqu'un de très malheureux. Parce que quand on est heureux, on n'est pas comme ça du tout.
Et puis, quand, les rares moments où je l'ai vu, où j'ai vraiment vu son visage, je la vois vraiment, elle tombe des excès dans l'alcool, elle boit toute seule, ou elle va se taper des tablettes de Valium, ou alors ça va être peut-être des... Enfin, je ne sais pas après, hein, ça peut être dans des choses sexuelles ou des choses comme ça, j'en ai aucune preuve, mais j'ai des doutes quand même sur des choses, sur des relations.
C'est quelqu'un qui n'est pas dans son axe, qui n'a pas trouvé sa place en réalité.
Ah non, parce que quand on dit qu'on ne doit pas faire l'amour avant le mariage et qu'on le fait 400 fois, et qu'on crie les versets de la Bible et qu'on dit que depuis la
vie de 16 ans... Oui, elle ne va pas bien, d'accord, mais l'essentiel maintenant, c'est que vous vous protégiez de ça.
Ah bien sûr. Non mais moi, maintenant, si vous voulez, j'ai vraiment tout compris, j'ai tout réalisé, etc. J'allais dire, je suis un survivant, quoi, maintenant. Bon, bien sûr, j'étais intoxiqué, il faut que je me désintoxe. Là, j'ai déjà pas mal désintoxiqué, en fait. Mais
ce que j'aimerais surtout, c'est que vous ayez assez d'estime pour vous-même pour ne pas retomber entre les pattes de quelqu'un comme ça. Et que vous puissiez être capable de vous dire « je mérite beaucoup mieux que ça ».
Bien sûr. Bien sûr.
Bon, alors ça va.
Oui, bien sûr. Non, mais je connais mes valeurs, sauf que je me suis étouffé, je me suis rabaissé face à elle, parce qu'elle, bien sûr, c'est grandiloquent, c'est, elle a tout vu, elle a tout fait, c'est la meilleure, elle n'a aucun défaut.
Ouais, elle avait le mode d'emploi pour vous, donc c'était facile.
Bien sûr.
Eh bien, au moins, vous pouvez vous dire le bon côté de la chose, c'est que ça a été un apprentissage.
Oui, c'est un apprentissage.
J'aime bien couper ce mot en deux.
Oui, hein? oui, exactement.
C'est comme ça qu'on grandit.
Exact.
Merci Boris de votre témoignage et de votre alerte. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés par ce sujet des pervers narcissiques et qui vont s'être reconnus dans votre histoire et d'autres qui vont peut-être aussi faire attention à eux, j'espère. Vraiment.
D'accord. Et puis, si jamais il y avait des personnes qui voulaient me contacter ou quoi que ce soit, si le standard voulait communiquer mon numéro, il n'y a aucun souci. Voilà, s'il y a des gens qui veulent m'appeler ou si... Enfin, voilà.
Ok.
Je pense que l'entraide, c'est important aussi dans ces moments-là.
On transmettra, c'est promis Boris.
Bien.
Prenez soin de vous, s'il vous plaît.
Merci, oui.
Je vous embrasse. Au revoir.
Merci, bonsoir.